Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Booster, la saison 3 de Sillage. Je suis Florent Verret et à mes côtés Amélie Petit-Demange. On est tous les deux journalistes aux EcoStart et on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
Vous connaissez désormais le principe. Nous mettons face à face une femme qui peut être PDG d'une grande entreprise, une femme politique ou une sportive de haut niveau. Cette femme sera le rôle modèle, celle qui répondra à toutes les questions que la jeune femme se pose sur sa carrière, sur le sexisme en entreprise ou sur comment accroître son réseau ou monter sa start-up.
De start-up, il en sera sûrement question dans l'épisode d'aujourd'hui puisque nous recevons Kat Borlongan. Kat, vous êtes entrepreneuse, vous avez cofondé la start-up 5x5 et vous êtes passionnée de sujets d'innovation. L'année dernière, à 35 ans, vous avez pris la tête de la mission French Tech, un programme gouvernemental qui soutient l'écosystème des startups françaises.
Face à vous, nous avons invité Sarah Boulaya, elle aussi entrepreneuse. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Sarah, vous avez 26 ans, vous venez de Strasbourg et vous faites partie de la promotion des Déterminés, une association qui favorise l'entrepreneuriat en banlieue et dans les milieux ruraux. Il vous aide à développer Sportline Style, votre startup. En deux mots, pouvez-vous nous expliquer ce dont il s'agit ?
Oui, alors donc je fais partie de la promotion 10 des Déterminés et je crée une ligne de vêtements sportifs pour les footballeuses amateurs.
Merci Sarah. Maintenant, on te laisse les commandes du podcast. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à Kat Borlongan.
Merci à vous. Bonjour Catherine. Alors, à quoi ressemblent vos journées de travail à la tête de la French Tech ? En quoi ça consiste réellement ?
Je pense qu'il n'y a jamais deux jours qui sont exactement pareils. Peut-être déjà pour expliquer ce que c'est la mission French Tech, ça donnerait déjà une bonne idée. Donc en fait, la mission French Tech est une équipe complètement hybride qui est à l'intersection en fait de l'administration française, du gouvernement et des startups. Donc elle est assez bicéphale en fait dans le sens où il y a toute la partie qu'on appelle la mission French Tech qui est la partie en fait la French Tech qui est tournée vers l'action publique. Mmh. Et ensuite il y a la communauté French Tech qui est vraiment la partie très bottom-up menée par les entrepreneurs eux-mêmes. Donc il y a des jours où je suis dans des bureaux à Bercy, en fait, très bien habillée, assise autour d'une table, en fait, en train de débattre les nouvelles politiques, en fait, qui risquent d'avoir beaucoup d'impact, en fait, sur la vie des startups. Mm-hmm. Et il y a d'autres jours aussi où je suis plutôt avec des entrepreneurs dans mon bureau à Station F, à French Tech Central, en train de recenser en fait le plus grand défi, parfois lié à des choses qui semblent aussi anodines que des blocages dans des douanes ou des problématiques de visa pour leurs employés.
D'accord, merci. J'ai vu aussi que vous avez un parcours assez atypique. Vous avez étudié dans différents pays comme le Japon, le Canada. Comment avez-vous transformé ce parcours en force ?
C'est assez intéressant parce que je fais partie de la génération qui fait un vrai travail de rétro-engineering de leur CV pour essayer de raconter quelque chose de cohérent.
D'accord.
Je pense que je suis vraiment pas la seule, il y en a vraiment beaucoup comme moi. Et je pense que ça prend un tout petit peu de temps, en fait, avant de se rendre compte en quoi on est vraiment bon. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de faire ce travail de rétro-engineering. En fait, si on regarde mon parcours, on peut dire que j'étais à Reporters sans frontières, j'ai étudié les affaires publiques. Ça montre en fait que j'ai un certain amour pour toutes les problématiques autour de la transparence. Mm-hmm. Ensuite, j'ai retrouvé l'open data, un sujet dont je suis tombée complètement amoureuse en fait, parce que ça brisait un petit peu la frontière de ce qu'on appelait la transparence, parce que ça introduisait en fait un élément participatif dans la manière dont les citoyens s'engageaient ou parlaient avec l'État. Mm-hmm. Et après l'open data, il y a les open API.
Les open API.
Voilà.
Donc, et ça a été vraiment une force pour vous d'avoir ce parcours-là ?
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec ces parcours, et je pense qu'on a très peur quand on est jeune, c'est que de toute manière, les métiers que la plupart des gens vont faire d'ici quelques années ont peut-être pas encore été inventé.
D'accord.
Donc en fait, par rapport à ce parcours-là, moi au final, si on le regarde très, très près, en tout cas la manière dont moi je l'ai vécu, je le vis juste comme plusieurs étapes de ma vie oui. où j'ai dit oui et oui. je poursuis en fait quelque chose que je trouvais hyper intéressant et passionnant à ce moment-là.
Vous foncez quoi ?
Oui, je pense que c'est ça. Et puis, je pense qu'il faut aussi voir que parfois, il y a des fils conducteurs qu'on ne voit pas, qui ne sont pas là. Donc, en fait, tu vois, pour revenir sur le sujet d'Open Data, Open API, au final, en fait, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, mm-hmm. je peux regarder ce parcours-là et dire, en fait, ce que j'ai poursuivi pendant tout ce temps-là, c'était l'interaction, en fait, entre plusieurs types d'organisations, d'accord. en passant parfois par les données, par les API. Mais aujourd'hui, en fait, une grande partie de ce que j'ai fait, mm-hmm. Que ce soit à la French Tech ou ailleurs, c'est de travailler à la frontière de deux organisations complètement différentes.
D'accord.
Et au final, que ce soit l'open data ou l'open API ou toutes les choses un petit peu techniques, oui. Au final, c'est ça mon parcours.
D'accord.
Et je pense que pour pas mal de gens, ils ne voient pas en fait que c'est ça qu'ils sont en train de bâtir.
D'accord.
C'est quelque chose qu'ils vont découvrir peut-être un peu tard.
Il y a des mots assez techniques comme open data. Vous pouvez nous en dire un peu plus pour ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là ?
Oui, bien sûr. Donc open data part d'une hypothèse assez basique. C'est que l'État a des données, récolte beaucoup de données en fait tout au long de nos vies, que ce soit où se trouvent en fait les arbres les plus vieux de la ville de Paris, ou les données cartographiques, ou les prénoms en fait les plus utilisés en France en 2019. Et on estime en fait que ces données-là appartiennent également à nos citoyens. Et du coup, ils devraient être ouverts. Et accessible, et pas juste accessible, mais également exploitable en fait commercialement, en fait que les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Donc Open Data part de l'idée qu'il faut ouvrir du coup ces données-là, les rendre accessibles, lisibles par la machine, comme ça les gens peuvent l'utiliser pour des applications ou quoi, complètement gratuit. Dans des formats qui sont open aussi.
D'accord. Et avant d'être à la tête de la French Tech, j'ai vu que vous avez créé votre société 5x5. Vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Oui, donc 5x5, bon, ça, c'est une entreprise qui bouge un petit peu, c'est déjà un petit peu bougé depuis que je suis partie, mais 5x5, en fait, est une agence dite d'innovation. Mm-hmm. Et ce qu'on faisait, en fait, en tout cas, moi, ce que je faisais à l'époque, c'était de bâtir des programmes en marque blanche pour des corporates, pour des administrations, pour des grandes organisations internationales qui voulaient, en fait, soit travailler avec des startups ou travailler comme des startups. Donc j'ai passé beaucoup de mon temps à bâtir des programmes, des équipes et des process en fait pour faciliter ça.
Et pourquoi avez-vous fait ce choix de l'entrepreneuriat si jeune ? Est-ce que c'est par passion, comme moi c'est le football ? J'ai une idée, je veux la concrétiser ? Ou vous avez eu une autre source de motivation, ou c'est plutôt pour l'argent, j'ai envie de devenir riche rapidement?
Non, mais pour être vraiment honnête, je pense qu'il y a des gens qui sont des entrepreneurs très naturels. J'en ai certains dans mon équipe, ça fait à peine 2 mois qu'ils sont à la mission French Tech, qui sont déjà en train de réfléchir à la prochaine entreprise et tout.
D'accord.
Moi, je ne pense pas que j'étais comme ça. Moi, c'était plutôt un accident.
Un accident?
Ouais, je dirais que c'était plutôt un accident, parce que donc, moi, je suis... Comme tu disais, j'ai un profil qui est assez atypique. Donc, je suis rentrée en France. Enfin, je fais une partie de mes études en France, mais je suis rentrée en France en 2011.
D'accord.
Je m'en souviens. J'avais un background un tout petit peu plutôt affaires publiques. Mm-hmm. Mais en même temps, je ne suis pas de nationalité française. Je ne maîtrisais pas forcément très bien le paysage politique français.
Mm-hmm.
Et je me souviens d'avoir postulé en fait, pour plusieurs jobs. Et quand je postulais pour ce job, déjà, je me souvenais des entretiens qui, pour moi, n'avaient aucun sens, où les gens essayaient de déterminer si j'avais un profil plutôt stratégique, plutôt digital, plutôt créatif, et je ne comprenais même pas les questions.
D'accord.
On voulait forcément, en fait, me mettre dans une case. Ensuite, je me souviens de ces entreprises-là, et même l'hierarchie, même la manière dont les entretiens, en fait, se passaient. Mmh. Et je pense que j'avais vraiment du mal. À imaginer que je serais enfermée en fait dans un monde comme ça. Donc en fait, à la base, 5x5, c'était pas censé devenir ce que c'est devenu aujourd'hui.
Mm-hmm.
À la base, je me suis retrouvée dans cette situation-là, ma cofondatrice aussi. Et on s'est dit, écoutez, on est quand même hyper spécialisé sur un sujet qui s'appelle Open Data. Les gens ne savent pas exactement ce que c'est encore. Je pense qu'il y a une niche. Moi, je pense qu'on devrait faire du freelance ensemble pendant un an. Ça nous donnerait en fait du temps à réfléchir à ce qu'on veut faire vraiment, explorer d'autres opportunités. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mm-hmm. Et au final, en fait, petit à petit, on a vraiment pris goût à l'entrepreneuriat et on a fini par bâtir une entreprise.
Et vous n'êtes pas né en France, vous avez appris rapidement le français, ce que j'ai vu sur vous. Vous êtes aussi une déterminée comme moi, j'ai fait la formation des déterminés. Et franchement, c'est vraiment une force. Enfin, comment avez-vous fait pour être vraiment déterminée et passer, arriver jusqu'ici quoi.
Je pense que le sujet du français, c'est assez rigolo, hein, surtout parce que je suis quand même à la tête de quelque chose qui s'appelle la mission French Tech.
Ouais, c'est ça.
où je fais pas mal de représentations, en fait. Ça m'arrive souvent de participer dans des discussions multilatérales, par exemple, où je représente la France. Et je pense franchement que je suis une des seules personnes en administration où, quand je suis dans ce genre de réunions, les gens me demandent d'où je viens.
Oui, c'est ça.
Mais je pense que sur les questions de déterminer, donc moi je pense, quand on parle déjà de la diversité, par exemple, que ce soit dans la tech ou dans l'administration, on a tendance à parler plutôt d'origine ou diversité ethnique ou homme-femme. Mm-hmm. Moi je pense que j'apporte une certaine diversité à laquelle les gens moins l'habitude. Par exemple, je fais encore des fautes de français.
D'accord.
Non, mais vraiment, j'ai encore un accent. Je fais encore des fautes de français. Et je peux vous dire que dans des réunions interministérielles, parfois, c'est déroutant.
Oui.
Mais en fait, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude peut-être de voir des gens qui sont issus de milieux différents, de backgrounds différents. Mais au final, tout le monde a à peu près le même accent. Tout le monde est habillé à peu près pareil. Mais voilà, c'est
peut-être ça qui fait votre différence quand vous arrivez. Comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui sont habillées pareil, qui parlent pareil, et là vous arrivez et ça fait...
Oui et non, je pense, je pense que ça dépend du contexte, parce que moi je peux vous dire que quand je suis arrivée en 2011 et je cherchais un appartement, je ne sais pas si... Bon, t'es un peu plus jeune que moi, mais...
Ah, c'est la galère à Paris, hein.
mais à l'époque,
de Strasbourg,
en fait...
c'est vraiment une galère.
Mais à l'époque, en fait, il y avait des business models où il y avait des agents qui vendaient des listes de particulier à particulier. Il fallait que tu les appelles un par un, en fait, pour demander si l'appartement était disponible. Mmh. Et moi, j'avais appelé 20 personnes, en fait, sur la liste, et il n'y avait aucun appart qui était dispo. Et du coup, j'ai reparlé, en fait, à la personne qui m'avait... Enfin, l'agent, du coup, qui m'avait donné cette liste. Et j'ai dit, écoutez, je pense que votre liste n'est vraiment pas bonne, ça fonctionne pas, j'ai déjà appelé 20 personnes, il n'y a aucun appart qui est dispo. Mm-hmm. Elle me dit, je pense qu'il faudrait que vous demandiez un ami qui n'a pas d'accent à appeler à ta place.
Ah oui, d'accord.
Et du coup, tu vois, moi je suis consciente qu'aujourd'hui c'est plutôt une force, mais c'est aussi une force parce que les gens qui m'ont embauché ont décidé que c'était une force.
Oui.
C'est aussi une force parce que...
ils ont cru en vous, en cette...
Parce que, ils ont cru que c'était important. Oui. Ils ont cru que c'était quelque chose, justement, qui... Enfin, c'était... Je me souviens de mon entretien avec les cabinets de Mounir Majoubi. Et je me souviens d'avoir dit, écoutez, regardez-moi dans les yeux et promettez-moi que ceci n'est pas en casting.
Oui.
Parce que je sais que le sujet de diversité et tout ça sont très importants pour Mounir. Et non, ils m'ont rassuré que bien sûr, c'était plutôt par rapport à mon parcours, mon background, mes capacités et tout. Mais je pense que quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a une femme relativement jeune, ça dépend des critères, issue d'une minorité visible, même pas française à la base et tout, qui dirige une équipe qui est la fierté de la France en quelque sorte.
Oui.
Oblige beaucoup de personnes en fait à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est le langage entre guillemets de l'excellence en France et sur la diversité des approches et des personnes en fait qui sont autour de nous.
Et est-ce que vous avez été soutenue par votre famille?
Oui et non, donc c'est une histoire un peu rigolo parce que je me suis enfuie en fait le chemin
vous
à l'âge de 19 ans.
D'accord.
Pour venir en France. Donc je suis arrivée en France toute seule.
D'accord, vous prenez vraiment beaucoup de risques, hein. C'est l'entrepreneuriat, hein. Dans tous les sens du terme.
Je pense à 19 ans, on ne se rend pas compte que c'est un risque. Enfin, moi je suis partie comme ça, je n'avais jamais mis les pieds en Europe.
D'accord.
Je ne parlais pas un mot de français, j'étais en train de prendre le participe passé quand je suis arrivée en France.
D'accord.
Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait un risque quand on ne sait pas ce qu'on risque vraiment.
Quand je dis que c'est un risque, c'est-à-dire que dans les critères de l'entrepreneuriat, il faut prendre des risques.
Oui, ça c'est
donc,
sûr. sûr.
Comme moi, j'ai quitté Strasbourg pour la mauvaise circulation de Paris. Donc voilà, c'est pas le risque en soi. Donc. Mais c'est vraiment d'aller et se dire oui, je fonce, je laisse mon confort et je vais vivre mes rêves ou je vais faire mes projets.
Oui, mais je pense que rester immobile ou stable et en forme de risque aussi, parce que je raconte même pas le nombre de personnes qui arrivent à mon âge et tout, qui leur plus grand regret, c'est que justement, ils n'ont pas osé un moment de leur vie. Donc je pense dans les deux cas, c'est des risques assez différents. Mais
quel conseil vous pourriez donner aux femmes qui ont peur d'oser, qui ont peur de se lancer?
Je n'ai pas non plus... Je pense que ça dépend déjà en quoi ils se lancent. Si on parle spécifiquement de l'entrepreneuriat, par rapport à l'entrepreneuriat, aujourd'hui, la France a vraiment tout fait, en fait, pour essayer de diminuer ces risques-là le plus possible. Aujourd'hui, il y a les bourses French Tech. Par exemple, qui sont des bourses de 45 à 50 qu'on donne.
Ils sont dédiés aux femmes?
Non, pas du tout. Non, c'est dédié à vraiment des gens qui veulent lancer des... qui veulent entreprendre. Les critères, en fait, sont très, très simples pour les obtenir. Mm-hmm. Il y a également les communautés French Tech, c'est-à-dire des regroupements d'entrepreneurs qui essaient de s'entraider et d'encourager, en fait, plus de gens à poursuivre l'entrepreneuriat. Et du coup, je pense, en tant que femme, je trouve que parfois... on a peur de se lancer dans quelque chose si c'est pas parfait. Et on a peur, en fait, de montrer qu'on est faible et de demander de l'aide. Mais en fait, en tout cas, on travaille fort pour que ce soit une réalité, mais on essaie de faire en sorte que la French Tech soit pas juste, en fait, un écosystème qui a les plus grands champions de tech dans le monde et tout, mais que ce soit également un écosystème qui est assez bienveillant. Donc, ce que je dirais, surtout à des femmes qui se lancent, c'est que, franchement... La plupart des gens, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont prêtes à aider quelqu'un qui pense que l'entrepreneuriat est peut-être pour eux.
D'accord. Et pour la bourse, ça consiste en quoi, en fait? C'est la bourse dont vous venez de me parler.
Oui,
ça
a l'air intéressant. On en a plusieurs par enjeu de l'État. Puis pour les French Tech, il y a celui-là en particulier. Ça existe depuis un petit moment maintenant. Mais c'est opéré par BPI. Et c'est une bourse, en fait, qui a été conçue à la base pour diminuer justement les prises de risques psychologiques par rapport au lancement d'une entreprise. Parce que lancer une entreprise, ça veut aussi dire quitter son job.
C'est ça, exactement. Donc ça pourrait aider des futurs entrepreneurs à avoir une stabilité financière.
Après, honnêtement, on fait souvent des blagues sur ça avec nos amis de l'URSSAF, mais la réalité, c'est que de plus grands angel investors de la France, ça reste quand même l'URSSAF par rapport au fait que le chômage est également conçu pour que les gens puissent se lancer dans l'entrepreneuriat.
D'accord. Qu'on dit souvent que les femmes entreprennent difficilement, car elles doutent, manquent de confiance en soi ou ne se sentent pas légitimes. Première question, est-ce que c'est votre cas? Avez-vous ressenti ce sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas être capable?
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours. Moi, je pense que c'est très sain. Je pense que c'est très sain parce que chaque fois qu'on est en train d'entreprendre quelque chose de nouveau, c'est normal, en fait, qu'on n'a pas forcément toutes les compétences, toute l'expertise, tous les partenaires, tous les réseaux pour y arriver. Et je pense que c'est parfois ce doute-là qui est également assez moteur. Après, donc je ne pense pas que ce genre de doute, ce genre de comportement soit forcément intrinsèque, en fait, à des femmes. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes, en tout cas de ma génération, ont été élevées, en fait, élevé autour de l'idée de la perfection. Tu vois, qu'il fallait que quelque chose soit vraiment parfait avant qu'on puisse se lancer, avant qu'on puisse le présenter ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ça un petit peu la source de ce que tu dis, en fait, de ce problème de manque de confiance, de légitimité, parce qu'on estime parfois que si on n'est pas parfaite, on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose.
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il faut leur dire qu'il faut vraiment se lancer et tester sur le terrain. et, ah bah et les sûr. Choses arrivent quoi.
Mais surtout, donc, je pense,
rien n'est parfait.
Surtout, il faut voir en fait le parcours des gens qui réussissent. Enfin, les gens s'attendent à ce que ce soit uniquement des personnes qui ont un parcours hyper clean, parfait, ouais. qui ont fait exactement les études qu'il fallait et tout. C'est pas du tout le cas. Surtout avec cette génération d'entrepreneurs, t'as beaucoup de personnes en fait qui
n'ont pas fait de grandes écoles,
qui n'ont pas fait de grandes écoles. De plus en plus, heureusement. Mm-hmm. Je pense sur le sujet des grandes écoles, c'est moins un problème de formation qu'une sorte d'habitus, en fait. Des gens des grandes écoles sont souvent poussés à lancer des start-up. C'est quelque chose qu'on entend souvent, surtout dans les écoles de commerce. Hein. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Culturellement, en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. Mm-hmm. Alors que moi, je me souviens d'une histoire que Mounir, en fait, raconte souvent... par rapport à l'époque qu'il a décidé de devenir entrepreneur. Mm-hmm. Et sa mère apparemment continuait à mentir et à dire à tout le monde qu'il était toujours avocat.
Qu'il était toujours avocat. Voilà. Ah, elle ne voulait pas dire qu'il était entrepreneur.
Non, parce que
c'est vrai qu'on a beaucoup ça, ma mère aussi. Enfin, elle ne ment pas hein, par rapport à ça, mais elle me dit « Mais Sarah, t'es sûre, tu prends des risques, t'es fatiguée, tu ne veux pas retourner à la vie stable. » Enfin, voilà, parce qu'elle s'inquiète pour la personne, parce que voilà, c'est vrai qu'on prend... Voilà, on ne sait pas où on va, mais on fonce, on a une idée. Moi, j'ai remarqué un besoin, je me dis non, je ne lâche pas. Je suis déterminée jusqu'au bout. Et c'est vrai, je me ressens aussi par rapport à ce que vous dites et ce que la maman de Mounir... je pense qu'il y a beaucoup de mamans de Mounir.
Pour il y en a pas mal.
Donc, voilà.
Ça va.
Et comment il a fait alors pour lui prouver que
ah non, au final,
il n'est pas avocat, mais qu'il veut être entrepreneur
ou... Non, au final, l'entreprise, heureusement pour lui, a plutôt bien fonctionné.
Ça, c'est la plus belle des réussites. C'est une belle preuve. Non, mais c'est top. Avez-vous l'impression d'avoir un positionnement différent de celui d'un homme pour assumer les différentes casquettes d'un chef d'entreprise au niveau de la gestion de la structure?
Oui, un peu, mais en fait, c'est assez intéressant parce que j'ai beaucoup un sujet sur les femmes, sujet femmes dans la tech, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler. Mais en fait, quand tu es une femme dans la tech, ou plus spécifiquement quand tu es entrepreneur dans la tech, mm-hmm. t'as pas de boss.
T'as pas de boss,
t'as pas de politique interne, t'as pas, tu vois, enfin, tous les départements et tout ça où il y a des interactions un peu complexes. Donc, femme dans l'administration, je pense que c'est vraiment un autre niveau encore. Je pense, je le sens un tout petit peu. Parfois, c'est dans les petits détails du type. Qu'est-ce qu'on porte en fait à tel ou tel événement, parce que pour les hommes c'est tellement simple, ils viennent en costard en fait, et la seule question qui se pose c'est cravate ou pas cravate. Et pour des femmes en fait tu sais jamais en fait quel niveau de formalité il faut mettre. Après il y a des grandes questions aussi parce que quand on est dans le milieu où t'as beaucoup d'hommes qui ont l'habitude d'être entre eux.
C'est ça, exactement.
J'allais
rebondir sur ça.
Oui, mais c'est un impact.
C'est un milieu assez masculin, quand même.
C'est assez masculin. Et du coup, il y a déjà... par exemple, tu as des réunions où tu n'as que de mecs.
Oui.
Un dynamique assez différente, en fait, quand il y a une réunion qui est un peu plus mixte. Mm-hmm. Et du coup, parfois, il y a des réunions... Enfin, moi je n'avais jamais vu ça avant, parce que moi, j'étais dans... Enfin, tu vois, j'ai beau militer pour la diversité et tout ça, mais ma cofondatrice est une femme, mon équipe était plutôt mixte dans le passé. Et tout.
Là, vous étiez directement confrontée qu'à des hommes.
Ça arrive souvent. Donc, en fait, ça n'arrive pas... À partir d'un certain seuil de pouvoir, oui.
Oui.
À partir d'un certain seuil de pouvoir, on voit que c'est surtout des hommes. Et surtout, historiquement, c'était surtout des hommes.
D'accord.
Ce qui veut dire que ça laisse quand même encore, en fait, des traces d'une culture qui est relativement masculine. Moi, il y a deux choses. Il y a des fois où je m'adapte un tout petit peu.
Mm-hmm. Vous adaptez.
Mais honnêtement, je dirais à 90% des cas, par exemple, quand on trouve des situations où c'est un mode conflit ouvert autour d'une table, ce type de choses-là, je rentre pas dedans.
Pourquoi ?
Bon, non, je rentre pas dedans. Pourquoi ? C'est juste, c'est tellement,
J'avais peur de donner votre avis parce que c'est des hommes.
Non, si, mais je donne mon avis différemment. Et en fait, je pense que les questions que tu poses sont assez intéressantes parce que c'est une question assez générationnelle. Quand on voit des femmes en fait qui ont 10 ans de plus que moi qui ont réussi, on voit beaucoup de femmes de cette génération qui ont pris les stratégies de camouflage en fait.
D'accord, c'est une stratégie alors, c'est pas une faiblesse.
C'est des stratégies à chaque fois et c'est quelque chose qu'on voit souvent. Enfin, beaucoup de dirigeantes en fait qui dans la génération en fait avant moi, qui du coup ont tendance à s'habiller de manière un peu plus masculine, qui en général sont
pour
en autorité. Oui, ou
pour
tenir tête en fait à tous leurs collègues qui sont plutôt.
Et pourquoi s'habiller de façon masculine? C'est-à-dire que maintenant c'est par rapport à des réflexions peut-être que vous avez eues.
Bah exactement, c'est ça que j'ai dit. Moi, je suis dans la génération, j'ai dit la transitionnelle.
Oui.
Moi, je fais partie de la génération à qui on a dit quand on était plus jeune que c'était pas possible, mais qu'on découvre en fait maintenant que si c'est le cas. Sauf que on a encore tellement de biais culturels ou encore tellement d'handicap par rapport au message en fait. Moi, je fais partie de la génération où on n'a pas envoyé ses filles en fait apprendre à coder parce qu'on a estimé que c'était plutôt pour des hommes, que l'entrepreneuriat c'est plutôt pour des hommes, le rose c'est plutôt pour des femmes, le bleu c'est plutôt pour des hommes. Mais là, on voit déjà.
Ça commence à changer.
Moi, je trouve que ça change.
Ça commence à changer. Il y a de l'amélioration. Et vous pensez que vous n'êtes pas entendu ou assez entendu quand vous avez une proposition à faire lors d'une réunion où il y a que les hommes? Vous m'avez dit la stratégie de camouflage. Quand vous voulez vous faire entendre, est-ce que on vous entend?
Je suis la directrice de la mission French Tech, donc oui, quand même.
Donc voilà.
Je pense qu'il y a des choses qui dépassent de très loin, en fait, les questions d'orientation. Et puis, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de se faire entendre aussi. Ce n'est pas juste une question d'être tous autour d'une table.
Et quelles sont ces manières? Comment s'imposer dans un milieu d'hommes? Parce que moi, principalement, aussi, je vais être amenée à rencontrer que les hommes, parce que c'est un milieu assez masculin, le football. C'est en plein essor. On a un petit effort parce qu'il y a la Coupe du Monde en juin.
Oui.
Et ça, c'est magnifique. On a réussi. Ça va être médiatisé sur des grandes chaînes. Comment vous arrivez à vous imposer à...
Je pense que ça dépend vraiment du contexte, en fait. Donc là, du coup, par rapport à ce que tu me racontes, ça me rappelle plutôt le contexte dans lequel j'étais quand j'étais moi-même entrepreneur. Moi, je me souviens que il y avait toujours des situations un petit peu où tu étais forcément un petit peu mal à l'aise parce qu'il y a toujours des commentaires.
Exactement.
Et souvent, c'est des commentaires assez bienveillants, en mode « bravo les filles, quel bel parcours » et tout. Le sexisme, en fait, vraiment méchant et tout ça, c'est en tout cas...
Vous en avez connu?
Non. Franchement, c'était quand même relativement rare. C'est toujours du sexisme un peu soft, du type des gens qui ont peur de nous engager parce qu'ils ont peur que les gens, que l'entourage pense en fait qu'ils ont pris telle ou telle entreprise parce que les cofondatrices étaient plutôt jolies et qu'ils se fassent taquiner en fait sur ce sujet. Des hommes en fait d'un certain âge qui nous parlent comme si on était leur fille en quelque sorte. Et du coup, tu sens une certaine forme de
respect,
Oui, et c'est plutôt des choses qui sont petites comme ça. Mais vraiment du sexisme en mode...
Vous n'avez pas
connu, ils vont être pas aussi bons parce que c'est des femmes et tout ça. En tout cas, personnellement, ça ne m'est pas vraiment arrivé. Je pense...
Et quel est le conseil que vous pourriez donner aux femmes qui ont des remarques assez sexistes dans leur travail?
Ça dépend d'où ça vient. On en a parlé...
Est-ce qu'il faut s'énerver ou le montrer directement ou non, au contraire, rester...
Moi, je pense que ça dépend... Moi, personnellement, ce que je fais, c'est par exemple, si jamais c'est quelque chose qui se passe en réunion, je montre un léger mécontentement, mais je sais pas non plus d'humilier la personne face à tout le monde. Et en sortant de la réunion, j'essaie de la voir dans le couloir et dire, écoute, est-ce qu'on peut se parler à 2 secondes? Juste que tu saches que je trouvais que ton commentaire n'était pas juste inapproprié, mais assez vexant.
D'accord.
C'est possible que tu ne rendes pas compte, en fait, que c'est comme ça que les gens vont l'interpréter.
Parce qu'ils sont assez spontanés quand ils disent ça,
C'est assez spontané et puis
ils sont entre hommes, celui qui va dire la plus belle des remarques.
Non, mais je pense en plus, ce qui est dingue, c'est que ça arrive également des personnes que je sais me soutiennent. Personnes que je sais qu'ils me soutiennent, qu'ils soutiennent nos ambitions, ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est juste encore, c'est quasiment des tics en fait. C'est quasiment des habitudes qui ont pénétrer en fait les interactions professionnelles et les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui que ça ne se fait pas.
Oui, ça peut avoir un impact sur les femmes, sur les personnes, c'est exactement.
Exactement. C'est des petites choses du type, il y a un truc français qui me rend complètement dingue, c'est quand tu traverses parfois un couloir où il y a des gens, ou tu traverses une petite foule où il y a des gens, les hommes se permettent en fait à te toucher au dos.
D'accord.
Pour t'écarter. Par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent en France, qui me rend mais complètement folle. Mm-hmm. Mais je sais que ça arrive de manière tellement, en fait, c'est tellement répandu que je me suis dit, je suis sûre que ces personnes-là pensent qu'ils sont en train de faire ça en mode gentleman, en fait, pour nous écarter de manière assez délicate si jamais ils veulent passer. Mais pour moi, par exemple, quelque chose comme ça, moi, j'explique à mon équipe, je dis, les gars, il ne faut pas toucher les femmes. Quoi.
Oui, exactement. Tu vois, on est au travail. Quoi.
On est au travail. Je sais que ça fait très galant et tout, mais franchement, non. Quoi.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est bien parce que ça permet de mettre certaines limites. Parce que pour moi, je pense que si on laisse cette ouverture-là, il y en aura d'autres. Et après, voilà.
Oui.
Et c'est mieux de mettre un stop comme vous l'avez mis. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment
mais encore,
bien.
Mais je pense que là, c'est assez difficile parce que on est franchement quand je pense juste aux hommes en fait qui sont dans mon équipe, c'est je pense là où c'est assez difficile pour eux parce qu'on est justement cette génération on est dite transitionnelle. C'est eux aussi, en fait, quand ils étaient petits, on les avait dit que, tu sais, il faut se comporter de telle ou telle manière avec des femmes, il faut l'ouvrir la porte, il faut leur tirer les chaises. Et aujourd'hui, et il faut, si jamais ils bloquent un couloir et tout, de les écarter très délicatement.
Bon,
ça, tout
c'est
ça,
pas chez tout le monde. Tu vois,
mais parfois, il y a des choses comme ça. Et aujourd'hui, en fait, entre-temps, mais de manière très accélérée, tous ces standards-là ont changé. Et eux aussi, en fait, ils sont dans une situation où ils ne savent plus, en fait, ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Et du coup, je pense pour moi, quelque chose qui est très important, c'est qu'on sauf si on pense vraiment que la personne est malveillante, on évite, en fait, de vouloir humilier des gens.
Oui, ça, c'est
que surtout, on essaie d'ouvrir des dialogues et d'expliquer, en fait, aux gens.
Donc, il faut favoriser la communication.
Je pense, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui ne sont pas encore très claires. En plus,
pour régler ce genre de conflit, prendre la personne à part.
Pour toutes
celles qui souhaitent entreprendre et qui ont connu cette situation.
C'est vrai que c'est
la meilleure des méthodes.
Et il y a la partie est très multiculturelle aussi. Hein. Donc, moi, je parle avec, avec des startups françaises qui maintenant ont beaucoup d'Américains. Par exemple, dans leur équipe, et m'y explique en fait par rapport au bras, il y a une zone en particulier que tu as le droit de toucher en étant professionnel, et c'est à peu près en fait du haut de l'épaule jusque.
Chez les Américains.
Voilà.
Et vous pensez qu'il faudrait instaurer ça en France?
Je pense, mais tu peux, mais après on se fait les bises.
Oui.
Donc en fait, il y a des choses en fait que culturellement sont juste complètement différentes. Moi, je pense. J'ai pas trouvé le mot en français, mais en anglais, on parle beaucoup de political correctness. Et je trouve ça assez difficile parfois, parce que c'est comme si on avait écrit tout un tas de règles que uniquement, en fait, uniquement une partie de la population n'est au courant. Et on l'impose aux autres. Et quand les gens ne connaissent pas ces règles-là, en fait, ils se sentent complètement ignorants ou complètement mis à l'écart. Je pense que quelque chose qui est plus important, c'est d'être, je dirais, intentionally correct. C'est-à-dire, à partir du moment que quelque chose était fait avec une intention plutôt de bienveillance, c'est tout à fait possible, en fait, d'avoir une discussion et expliquer à la personne, en fait, que telle ou telle chose m'avait un petit peu vexée, telle ou telle chose m'avait un petit peu blessée, ou telle ou telle chose est complètement OK. Et j'avais vu un article il n'y a pas très longtemps qui m'a vachement marqué sur le fait que, justement, avec les réseaux sociaux, on a tendance à développer une culture de shaming, un peu.
Shaming, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, on est très, très content de trouver, en fait, un acte par exemple, de sexisme et tout ça, fait par quelqu'un pour pouvoir le mettre en ligne, pour que tout le monde puisse regarder qui est cette personne, qu'est-ce qu'ils ont fait, et tout, et attirer une foule, en fait, de personnes qui vont ensuite le huer en ligne. Et c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est devenu assez répétitif. Il y a une partie qui était peut-être très saine et qui est important et tout ça. Mais il y a un autre aussi où vraiment parfois je me pose des questions sur est-ce que ce qui est important c'est d'humilier cette personne ou de créer en fait un débat, une discussion qui est ouverte et constructive pour faire en sorte que ce genre de problème en fait n'existe plus d'ici quelques années.
Oui, C'est ça. Et est-ce que vous avez des solutions ou vous avez des objectifs sur le long terme pour favoriser et aider les femmes qui souhaitent se lancer dans la tech?
Oui, mais c'est pas comme ça que je vois le sujet. C'est parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Kat, pourquoi vous avez pas lancé des programmes spécifiquement pour des femmes? J'ai dit, mais tous les programmes de la French Tech sont pour des femmes. On veut pas non plus commencer à ghettoiser des femmes en disant, bah, voici, on a créé un sous-programme pour vous parce que on n'arrive pas à vous intégrer dans les autres programmes, en fait, de la French Tech. Donc, il y a plusieurs mesures, en fait, qu'on essaie de mettre en place. Qui honnêtement sont très similaires à le genre de mesures que j'espère on trouve également dans les entreprises. Donc une des premières choses qui est très simple, c'est que mon équipe aujourd'hui doit m'expliquer à chaque fois pour n'importe quel programme, n'importe quel événement, ils doivent me montrer en fait qu'ils ont vraiment fait le maximum pour atteindre en fait un certain équilibre homme-femme.
D'accord.
Donc juste par exemple, c'est l'air petit, mais en fait pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle administration, juste le fait que pour le boss entre guillemets, c'est important et tout le monde sait que c'est important et du coup ils essaient vraiment de tout faire pour ça, c'est quelque chose qui mine de rien en fait a un impact qui est assez non négligeable. Le deuxième est on a en fait un fonds qu'on est en train de lancer. En fond, c'est un grand mot, c'est plus un grand pool de sponsorship qui est fait pour les événements ou des activités en fait, qui sont issues plutôt des communautés French Tech. C'est des tickets de 20 à 100K. Et je dis qu'à partir de maintenant, il n'y a aucun événement qui sera sponsorisé en fait, par la French Tech s'ils ne peuvent, peuvent pas démontrer qu'ils ont au moins 35% du sexe opposé en fait, qui est représenté dans les intervenants.
D'accord. Donc ça, c'est une condition que vous avez imposée.
Oui. Ça, c'est imposé. C'est-à-dire,
permettre aux femmes aussi d'accéder à...
C'est pas tant une question de permettre aux femmes d'accéder. Je pense, pour moi, l'enjeu, c'est plutôt de faire en sorte que ça devienne juste culturellement inacceptable, de toute manière, d'avoir des conférences ou des choses dans la tech où les femmes ne sont pas là. C'est une manière aussi de dire, voici, ça, c'est le standard, en fait, de 2019. À partir de maintenant, en fait, ça devrait être comme ça. Et le deuxième, c'est pour d'autres femmes de voir aussi qu'il y a d'autres femmes qui sont représentées, qui sont aussi des entrepreneurs, des investisseurs, des vice-présidentes, des dirigeantes et tout ça, pour justement trouver plus de rôle modèle. J'étais l'organisatrice de Startup Weekend, en fait, quand j'ai fini tout juste d'arriver à Paris. Et on a vraiment regardé statistiquement que quand c'était moi qui étais l'organisatrice, visible avec le micro tout au long de la semaine et tout ça, il y a eu un changement en fait par rapport au nombre de femmes qui postulaient en fait pour participer à Startup Weekend. Ça, il y avait vraiment une augmentation de quelque chose comme 20% ou quelque chose comme ça. Bah parce que
ils ont vu une femme, ils se sont sentis.
Ils ont vu une femme, ils ont dit que peut-être c'est pour moi aussi. C'est créé Quand j'ai parlé avec elle, en fait, il y en a beaucoup qui disaient que c'est créé, je sais pas comment dire ça en français, une sorte de safe space. L'idée que vu que j'étais là et tout, elle savait que c'était un environnement en fait où elle serait respectée.
Où elle serait en confiance.
Oui, voilà.
Souvent, il y a des personnes qui ont peur de parler de leur projet, de peur qu'on leur pique leurs idées. Vous en pensez quoi? Moi, pour ma part, j'avais cette sensation-là, cet état d'esprit au début. Mais grâce à la formation des déterminés, j'ai pu relever ça parce que voilà, je trouve que la force collective, c'est quelque chose d'énorme de travailler en groupe. Mais après, il ne faut pas le dire non plus à n'importe quelle personne, je suppose. Mais vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut en parler tout de suite?
Moi, je pense que les idées, en général, valent quasiment rien. Toutes seules et tout ça. Enfin, d'ailleurs, tu ne peux même pas poser un brevet sur une idée aujourd'hui. Donc, on voit d'ailleurs beaucoup de start-up, et on voit qu'elles sont nées quasiment des mêmes idées. On regarde, il y a Spotify, Deezer, il y a Uber, chauffeur privé, Taxify, et au final, en fait, là où ça se joue, c'est vraiment l'exécution.
Donc il faut parler de son projet pour vous.
Je pense qu'il faut en parler tout de suite. Quand j'étais organisatrice de Startup Weekend, je me souviens que, dans le passé, il y avait pas mal de gens qui pitchaient leur idée à Startup Weekend et qui demandaient à l'audience de signer des NDA, qui était quelque chose que culturellement, en fait, est devenu assez inacceptable, à la fois parce que, un, c'est vrai qu'il faut être dans une culture de bienveillance, et deux, parce que personne signe d'NDA, même des VC à qui on envoie des pitchs et tout ça, ils ne les signent plus, parce que aujourd'hui, tout le monde sait que des idées, il y a 10 000 personnes qui peuvent avoir la même idée, et peut-être uniquement 4 ou 5 en fait qui vont réussir
l'exécution.
On pourrait
leur dire que même s'ils ont peur que voilà qu'on leur prenne leur idée, une personne peut avoir l'argent et faire l'idée, mais elle le fera jamais comme la personne voudra le faire.
Non, et aussi, je suis quasiment sûre, mais à 90%, que l'idée de cette personne, à un moment qui, enfin, cette idée va changer. Mm-hmm. Que si tu as une idée en fait, que tu as eue comme ça en te baladant en fait, quelque part à Paris, que tu vas parler en fait, à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, et cette mm-hmm. idée, en fait, au bout de quelques semaines, va déjà évoluer et devenir quelque chose d'autre. Donc
il faut se lancer.
Ouais, il faut
et
se lancer.
Prendre ce qu'il y a à prendre.
C'est sûr.
Et en tant que femme, j'ai aussi envie de fonder une famille. Et on se demande souvent si on peut concilier ça avec une entreprise. Vous, personnellement, comment vous gérez cette question-là?
Bah,
si vous la gérez.
Non, aujourd'hui, je me pose la même question, mais je suis entourée de tellement en fait de femmes. Là où j'ai de la chance, c'est à mon âge, en fait, je suis déjà entourée de beaucoup de femmes qui l'ont déjà fait. Du coup, je le regarde, je prends des notes, je prends des tips et tout. Mais il y a tellement de femmes qui ont déjà montré que c'est possible.
C'est possible.
Il y a tellement de femmes qui ont également montré que c'est pas juste possible, mais à la limite, ça les a vraiment aidées dans leur carrière. Ça les a aidées à mieux se focaliser, à mieux prioriser, en fait, ce qui est important et pas important. Qu'aujourd'hui, j'avoue, j'ai beaucoup moins peur.
Pour ceux qui ont peur,
oui,
je pense. Oui, c'est vrai que pour moi, pour ma part, la famille, c'est une richesse. Et j'ai pas envie de me trouver aussi à ne pas avoir fondé de famille à je ne sais quel âge. Donc, on peut concilier les deux.
Je pense que c'est les deux.
C'est une question d'organisation pour vous.
Sans doute, mais j'ai pas d'enfant. Donc...
D'accord.
J'y dirai le jour que ça m'arrive.
D'accord. Sur une note utopiste, un peu rêveuse, si demain vous deviez vous réinventer, qui seriez-vous ?
C'est drôle, je ne me suis jamais posé cette question. Je pense que je suis toujours en train d'essayer de chercher et de devenir la meilleure version de moi-même versus de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et tu vois, justement, tu parlais tout à l'heure de parcours atypiques. La réalité, c'est qu'il y a très peu de parcours typiques aujourd'hui. Mmh. Et c'est à cause d'eux, grâce à ça, en fait, qu'on n'a plus vraiment une idée très claire de qui est notre rôle modèle, parce que chacun est en train de tracer son propre chemin. Je pense que je me trouve aussi dans ce cas-là.
Donc vous changerez rien. Vous ne changerez rien à votre vie actuelle.
Ouais, mais j'ai une longue liste de choses que j'aurais changées.
Vous ne regrettez rien.
Non.
D'accord. Bah, je vous remercie en tout cas, Catherine.
Moi aussi, du coup, j'aurais une question pour toi. Okay. Parce que là, en fait, tu m'as posé beaucoup de questions sur quels conseils, en fait, est-ce que je pourrais donner en fait, à des femmes qui sont en train de se lancer et tout. Mmh. Et pour toi, dans l'autre sens, quels conseils est-ce que tu donnerais en fait, à des femmes qui, elles, en fait, sont déjà lancées, qui sont déjà très avancées, en fait, dans leur carrière, par rapport à ce qu'elles pourraient faire, en fait, pour aider des jeunes femmes comme toi?
De présenter leur parcours, de leur donner aussi des outils pour y arriver. C'est-à-dire, voilà, peut-être qu'il y a ce programme-là qui pourrait intéresser. Vraiment faire un processus pour pas qu'elles soient perdues, parce que quand on se lance, on se dit, ben, on fait comment? Et de leur dire, voilà, vous pouvez commencer par ça, comme les déterminer. Vous allez avoir une structure par rapport au business plan, un réseau. Puis après, quand vous avez passé cette étape-là, ben, y a ça. Vraiment avoir un accompagnement sur on va dire, un an. Bon, il y a aussi des formations comme Villa qui le font pour les femmes. Mais vraiment avoir que ce soit visible et bien communiqué. Pour pas qu'on se perde et qu'on se dise, oui, voilà, on est lâché dans la nature. Mais vraiment avoir un suivi, ça serait une force, je pense.
Ok.
Merci à toutes les deux. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé toutes les deux un bon moment.
Merci. Ouais, très bien, merci.
Si comme nous, ça vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes et mettre 5 étoiles. Ça nous aidera à faire connaître le podcast.
On vous dit rendez-vous dans 2 semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle jeune femme intervieweuse.
Salut!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.